On peut parler combien de temps?
Il est quelle heure?
L'écart, 11h, presque
Jusqu'à
11h20.
il est pas encore 11h15. Donc
Oui.
jusqu'à midi, je pense que c'est bien.
Oh, merci pour l'affection fraternelle. C'est bien d'être avec vous. C'est un peu bizarre de parler à une machine.
Je te
Donc,
confirme.
être disciple, donc évidemment, disciple, c'est une réalité très, très, qui, enfin, qui est très grande et qui occupe beaucoup de place dans le Nouveau Testament, spécialement dans les évangiles. Plus de 250 fois entre les évangiles et les actes. Le mot apparaît, c'est quelque chose d'élémentaire. Et en même temps, c'est quelque chose qui remet en question, et moi personnellement, ces derniers temps, qui me remet en question, jusqu'à quel point suis-je disciple du Seigneur et pas. Alors, en fait, tout le message a été contenu dans les premiers mots que Pierre a dit. Au commencement, Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est flagrant dans les évangiles, c'est que s'il y a des disciples, c'est parce qu'il y a le maître. Et c'est quand Jésus vient sur terre, c'est à partir de là qu'il est parlé massivement et sans cesse de disciples. Alors malheureusement, le message aujourd'hui ne peut pas être sur un seul texte. Je vais citer plein de versets, et cet après-midi aussi, quasiment tous des versets qu'on connaît. Dans Luc 22, au verset 11, on reviendra sur des versets qui précèdent et qui suivent. Mais c'est quand Jésus envoie deux de ses disciples pour préparer la Pâque. Et il dit au verset 10, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera. Donc ça, on y reviendra cet après-midi. Et vous direz, voilà, vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Donc, en français, il y a le maître avec M minuscule, le maître avec M majuscule. Et oui, les humains sont maîtres d'un certain nombre de choses, mais il y a le maître. Et un disciple, c'est pour commencer quelqu'un dans le cœur duquel la majuscule est arrivée, si vous voulez. Dans le cœur duquel il y a Dieu a imprimé la différence, l'énorme différence entre n'importe quel homme ou modèle ou responsable ou que sais-je, ou ministère ou gouvernement, et puis le maître. Plus Jésus est maître, plus on est disciple. Et malheureusement, l'inverse aussi. Moins il est maître et moins je suis disciple. À tel point que la bonne question n'est pas premièrement, est-ce que je suis disciple? Mais jusqu'à quel point est-il le maître? Alors, dans l'absolu, il est le maître absolument. Mais dans ma vie, dans ma volonté, dans mes conceptions, dans mon cœur, est-ce qu'il est peu maître? Donc, être disciple de Jésus se comprend en réfléchissant non pas d'abord à moi, mais à lui. Et évidemment, en l'écoutant lui. Donc, ça, c'est une des constantes dans la vie des disciples, dans les évangiles, qu'ils suivent le maître, le Seigneur, et ils écoutent. Il l'écoute. Au moins plus de 80 fois dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé le maître. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un mot qui a quasiment disparu du vocabulaire évangélique. Mais dans Acte 4, quand il prie et qu'après le lieu où ils sont assemblés tremble, donne à tes serviteurs l'assurance de parler en ton nom et tend ta main pour faire des prodiges. Eh bien, leur prière commence par « Maître ». Et probablement, il faut regretter la disparition du mot « Maître » de nos prières. Le sermon sur la montagne, donc Matthieu 5 ou Luc 6, le chapitre commence comme ça. Matthieu 5, verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc il y a clairement une distinction. Alors, c'est pas une distinction absolue et c'est pas une distinction d'essence, mais il y a une distinction entre la foule et les disciples. Pourtant, la foule là, ce sont des Israélites, des gens du peuple de Dieu, des gens qui sont dans l'alliance de Dieu, mais quand même, voyant la foule, il monte. Et alors, le texte ne précise pas combien de la foule monte aussi, mais en tout cas, le texte précise qu'une fois qu'il s'est assis, les disciples s'approchent. Vous voyez, ce n'est pas marqué « les disciples s'approchent » et ça déclenche que Jésus s'assied et qu'il enseigne. Vous voyez, ce n'est pas le disciple qui déclenche les choses. C'est Jésus qui s'assied. La suite est impressionnante. Ouvrant la bouche, il se mit à les enseigner. Évidemment qu'on ouvre la bouche pour parler. Mais ça veut dire, voilà, le maître s'assied, attention, il va y avoir quelque chose. Et puis, il ouvre la bouche. Donc, ouvrons les oreilles. Et c'est ça qui fait qu'il s'approche. Voilà. Alors, de même, et voilà une. Alors, j'aime énormément. Alors, donc, je vous l'ai dit, il y a plus de 250 mentions du mot disciple. J'aime énormément les mentions où elles sont dans la bouche de Jésus. Quand Jésus emploie le mot disciple, et chaque fois, évidemment, ce sont des paroles clés. Alors, ici, Jean 8, verset 31, Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et de nouveau, il y a plus qu'une nuance entre croire et être disciple. Et en vérité, ceux qui venaient de croire, quand il leur a dit ça, vous serez affranchis, eh bien, ils montrent qu'ils ont à peine commencé à croire comme il faut, puisqu'ils se rebiffent et ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Eh bien, si vous n'avez jamais été esclaves de personne, si vous n'êtes pas esclaves du péché, que le péché, c'est rien du tout, eh bien, vous ne pouvez pas être mes disciples. Voyez? Alors, si on revient à Luc 22, Jésus dit de dire à cet homme, le maître dit. Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors, est-ce que nous savons qui ont été les deux premiers disciples de notre Seigneur Jésus? C'est difficile parce qu'on voit bien quatre fenêtres, mais donc c'est dans Jean chapitre 1. André, donc avant Simon-Pierre, c'est d'ailleurs André qui va chercher Simon-Pierre. André et puis un deuxième dont on n'a pas le nom. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus disciples de Jésus? Parce que jusque-là, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui... Donc, Jean, chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Il l'avait dit précédemment, hein, au verset 29, « L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là, il redit juste, « Voici l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Donc, précédemment, Jean avait dit « L'agneau de Dieu » et en explicitant « qui ôte le péché du monde ». Ça, il le savait, que c'est le sang de l'agneau qui a couvert et qui a permis d'échapper à la mort, à ce châtiment sur tous les premiers-nés dans Exode 12. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur cœur, hein, ces deux-là, pendant un certain temps, mais quand Jean-Baptiste redit « Voici l'agneau de Dieu », bien là, ils partent et ils suivent Jésus. Au début, il reste juste une demi-journée ou un certain temps, et puis après ça ne s'arrête plus. Hein, André va chercher Pierre, etc., puis quelqu'un va prendre Philippe, puis Philippe va chercher Nathanaël, bon, etc. Et donc, il y a des disciples. Alors, Jésus fait dire à cet homme-là dans Luc 22, celui qui prête une grande salle pour la Pâque, il dit, le maître te dit. Et le maître, c'est qui? C'est l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire dans cette salle, le maître? Il dit, avec mes disciples, il va manger la Pâque. Mais pas de la même manière. Il va la manger de la même manière qu'elle a été mangée depuis pas loin d'un millénaire et demi. C'est impressionnant. Il va chanter les psaumes, etc. Mais de la même manière et pas de la même manière parce qu'il va dire... Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour le pardon des péchés. Et ce pain est mon corps donné pour vous. Et bien entendu que le disciple, c'est quelqu'un pour qui le maître est l'agneau de Dieu. Quand Pierre et les autres, donc quand les onze prêchent dans Acte 2 le jour de Pentecôte, le résultat de la prédication, c'est donc ils prêchent Jésus crucifié, ressuscité, ils prêchent l'agneau de Dieu, le maître, et le résultat, c'est Acte 2, 38, et ils furent transpercés au cœur. Voilà. Et du coup, ça fait des disciples. C'est ça qui fait des disciples. toute la discipline, la bonne volonté d'apprentissage, même les méthodes d'apprentissage, que sais-je, les formations, tout ce qu'on veut, ce n'est que second, et même troisième, et même centième. Ce qui fait le disciple, c'est que le maître est venu et qu'il est l'agneau de Dieu. C'est que le maître a été crucifié et ça a transpercé le cœur de cette femme-là, de cet homme-là, de cette jeune fille, de ce vieillard. Voilà, transpercé au cœur en français. Ils eurent le cœur vivement touché. Mais littéralement, ils furent transpercés au cœur. Et donc, ce n'est pas dimanche dernier, c'est il y a 2 semaines. Donc aussi, j'étais avec vous pour écouter. Et donc, dans Luc 7, ce qui a été lu, c'est que... C'est qu'il y avait Simon le pharisien et d'autres, et eux, alors, d'après leur cœur, oui, l'Éternel leur pardonnait un certain nombre de choses, mais pas grand-chose. Et cette femme-là, qui pleure aux pieds de Jésus, eh bien, elle, c'est clair qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et Jésus dit, celui à qui on remet peu de dettes, aime peu. C'est l'occasion de bénir ma jeune sœur qui a donné ce message. Là, j'ai un trou, je ne sais plus son nom. Elsa, oui. Et de bénir ses parents qui l'ont élevée d'une manière qui a donné ça. Alors, celui à qui on remet peu, aime peu, mais celui à qui on remet beaucoup, aime beaucoup. Et bien évidemment que le disciple, il reste reconnaissant. Jamais il ne met en oubli la purification de ses anciens péchés. Sinon, il est en grand danger. Il est en grand danger. Vous voyez, il y a une expression qui est stupide, mais a pleuré, qui s'est répandu ces dernières décennies dans le christianisme, c'est « il ne faut pas rester à la croix, il faut dépasser la croix et aller plus loin ». Mais c'est une expression qui est tueuse de disciples. C'est assassiner des disciples que de prêcher ça. On ne peut pas dépasser la croix. Et Jésus va plus loin et dit, si quelqu'un ne prend pas sa croix, il ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple. Et vous savez bien que prendre sa croix, c'est pas supporter sa belle-mère. C'est que la croix de Christ a transpercé mon cœur. Nous n'avons pas d'autre croix que celle de notre maître. Et à tel point que Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Plus littéralement, j'ai été crucifié avec Christ, il dit. Et à ce moment-là, après, bien sûr qu'il y a les applications concrètes. Quiconque d'entre vous ne renonce pas, Luc 14, verset 27, c'était « ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple », et Luc 14, verset 33, « quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple ». Alors, bien, si vous voulez, bien sûr que le disciple renonce. Ça a été dit autrement ce matin. Ça a été dit, le maître lui coupe des racines. Mais maître, ce sont mes racines. J'en ai vécu, elles m'ont nourri. Elles m'ont communiqué toutes sortes d'éléments. Elles ont fait ma sève. Et bien, il coupe. Mais pourquoi on renonce à des choses vitales? Parce que on a été transpercé par sa croix. Vous savez, il y a beaucoup dans les évangiles, et en plus comme c'est répété dans les quatre de différentes manières, Jésus parle pas mal de fois de perdre sa vie, de renoncer. Alors ça. on a télescopé tous ces différents versets dans l'expression mourir à soi-même. Oui, c'est ça va. Mais Jésus précise bien quand même qu'il ne s'agit pas de perdre sa vie pour n'importe quel motif, ni de renoncer à 1000 choses pour devenir président de la région ou de la République, ou contremaître dans mon atelier où je n'étais que simple ouvrier. On peut, les sportifs, dit Paul, renoncent à beaucoup de choses et s'imposent toutes sortes d'abstinences pour une couronne corruptible. Mais Jésus dit bien, il dit à cause de moi ou pour amour de moi et de l'Évangile. Et donc chaque fois que si on passe en revue les différents versets où Jésus parle de perdre sa vie, il y a chaque fois un focus un peu complémentaire qu'il donne. Le premier, c'est celui qui aime père ou mère plus que moi. Il ne peut pas. C'est-à-dire, si mon identité, c'est ma famille, la culture de ma famille, les valeurs de ma famille, les priorités de ma famille, donc, il faut être honnête, à 75%, la mauvaise manière de vivre héritée de vos pères, eh bien, si ça doit rester mes critères d'identité, Jésus dit, il ne peut pas être mon disciple. Donc, il y a l'identité de la famille, il y a réussir. Réussir et ne pas souffrir. Alors, c'est Pierre qui dit ça à Jésus. Quand Jésus lui dit, et le Fils de l'homme va souffrir, être frappé, humilié, craché dessus, mis à mort. Et Pierre dit, non, non, non! Et le Pierre de l'Évangile, hein, c'est pas Pierre de Vogel hein, qui a dit ça. Et Jésus dit non, il dit tes pensées sont les pensées des hommes, et puis en plus il lui fait comprendre que ça vient de Satan. Et dans ce contexte, Jésus redit, on peut pas être mon disciple comme ça. Donc, réussir et ne pas souffrir, mais c'est le rêve absolu de 99% de l'humanité. Ensuite, il y a bien sûr mes affaires et mes biens. Mes affaires, c'est-à-dire là, ce qui me fait gagner de l'argent, ce qui pourvoit à ma subsistance. Et puis, mes biens. Si quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a. Donc, vous voyez, et en un mot, ma vie. Celui qui trouve sa vie, qui garde sa vie, il la perd. Alors, il y a un bon article sur un certain blog assez récent, intitulé « Perdre sa vie », sur les différents endroits où Jésus parle de ça. Cependant, il y a une mauvaise manière d'insister et de prêcher et de marteler sur la tête des gens. Tu es chrétien, tu dois perdre ta vie. Et la mauvaise manière, c'est de ne pas commencer par le maître et de ne pas focaliser les frères et sœurs vers le crucifié ressuscité. Mais une fois qu'il y a ce focus qui doit être entretenu en permanence, une fois qu'il y a ce focus, on peut entendre correctement ce que signifie perdre sa vie. D'accord ? Hochez la tête si vous êtes d'accord. C'est mieux quand même quand on est en face les uns des autres. Hein. Voilà. Alors, oh, Seigneur, Seigneur, quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, hein, dans la version Darby, qu'il renonce à lui-même et non pas qu'il vive pour soi. Alors, attention, est-ce que Jésus a été crucifié pour que je me réalise ? pour que je m'épanouisse. Alors, Dieu veut que je m'épanouisse. Et en vérité, il n'y a que lui qui peut bien le faire et bien le donner. Mais ça, il n'a pas besoin de livrer son fils à la mort pour pouvoir tout ce dont j'ai besoin de nourriture psychologiquement, au niveau relations bienveillantes, etc., ni à toutes sortes d'activités valorisantes. Est-ce que Jésus a été crucifié pour que ma créativité se développe? Non, Dieu, il peut bénir la créativité de mille manières. Il a pas. C'est à cause du péché qu'il a et que son fils a été crucifié. D'accord? Donc, il y a une manière de tout ramener à soi avec des demi-versets bibliques par-ci, par-là. Et donc, il faut se repentir de ça. Être disciple de Jésus, ce n'est pas apprendre à devenir ce que je suis. Ça, c'est un mensonge du diable qui s'est répandu surtout à travers les spiritualités non chrétiennes, entre autres dans ce qu'on appelle à tort le Nouvel Âge, parce qu'il n'y a rien de nouveau, où tout au fond, l'homme, il est déjà tout. Il suffit de faire sortir ce qu'on est déjà. Et malheureusement, certains prêchent ça aux chrétiens en disant, voilà, quand tu te convertis, tu deviens tout et il faut faire sortir ce que tu es déjà. Mais c'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Jésus n'a pas dit, suivez-moi et vous deviendrez ce que vous êtes. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je le dis non sans une certaine affliction, Jésus dit, suivez-moi, celui qui ne perd pas sa vie ne peut pas être mon disciple, et Jésus ne dit pas, poursuivez vos rêves. Ça nous amène à une chose, une précision suivante. Le chrétien est disciple de qui? C'est dans le nom. Dans le nom chrétien, c'est inclus. Les disciples de Christ. Vous savez que chrétien, ça ne veut pas du tout dire petit Christ. Ça, c'est encore une chose qui se répète et qui vient de ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Chrétien en grec, ce n'est pas du tout un diminutif. Ça veut dire de Christ, celui qui se réclame de Christ. Si vous voulez, pour faire vraiment béaba, parisien de Paris, chrétien de Christ. Sauf qu'il ne s'agit pas ici de localisation géographique. Quoique, il dit bien, demeurez en moi. Mais ce n'est pas géographique, c'est spirituel. Donc, on est disciples de Jésus. C'est capital. Et quand Jésus dit « faites des disciples », jamais, il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui permet de penser qu'il voulait que Pierre fasse des disciples de Pierre, Jean des disciples de Jean, Marc des disciples de Marc, etc. C'est dans le Nouveau Testament entier, le mot disciple n'est jamais accolé au nom d'un être humain, à part évidemment Jean-Baptiste avant Jésus et les pharisiens qui protestent pour ne pas croire en Jésus le Maître, nous sommes disciples de Moïse. Voilà. À part ces deux noms, Jean-Baptiste et Moïse, le mot disciple n'est accolé à aucun nom, ni Saint-Pierre, ni Saint-Paul, ni Saint-Jean. D'accord ? C'est vraiment important. Vous allez me dire, mais tu nous défonces là une porte ouverte. Je ne suis pas si sûr que ça, qu'elle soit tout à fait ouverte. L'emploi du mot disciple, de discipula, etc., est majoritairement relié à l'idée de prendre un homme de Dieu, un chrétien mûr, une chrétienne mûre, etc., comme maître. Alors, on ne met pas la majuscule, quoique. Alors, bien, je ne suis pas du tout, et si ça produit ça, que Dieu me pardonne, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on n'a pas à s'attacher à des frères, des sœurs qui sont nos prédécesseurs, etc. Pierre dit, par exemple, les anciens de l'Assemblée, vous êtes premièrement des modèles. Mais modèle en quoi? Modèle par votre obéissance à Jésus. C'est en ça qu'on est modèle. Si vous voulez, pour le dire autrement, si quelqu'un d'entre vous me prend comme modèle en ce que Dieu m'a donné une bonne mémoire et que, même si elle a bien blessé ces temps-ci, et que elle contenait des centaines et des centaines de références bibliques par cœur, si c'est en cela que vous me prenez pour modèle, eh bien, laissez tomber. Hein. Si là où j'obéis à notre maître commun, vous voulez imiter? Amen. Alors, Paul dit à Timothée, 2 Timothée 3, verset 10, « Tu as suivi de près mon enseignement, ma foi, ma pratique, mes souffrances, etc. » Donc, on voit bien qu'il y a un rapport, et on pourrait, au sens faible du mot, on pourrait suggérer que Timothée a été disciple de Paul. En attendant, le mot n'est jamais employé pour ça. Parce qu'il est réservé à désigner le fait d'être disciple du Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un se convertit quand on lui témoigne? S'il se convertit avec une demi-conviction de péché, voire quasiment pas, mais il comprend quand même qu'il ne faisait pas bien de donner aucune place à Dieu dans sa vie, il s'attache au chrétien, la chrétienne qui lui a témoigné, on l'invite dans l'assemblée, il trouve des frères, des sœurs, des amis, c'est sympa, c'est cool, mais il n'a pas été transpercé au cœur, et on découvre au bout de quelques semaines, quelques mois, des fois on sent, il ne faut pas longtemps en vérité. On découvre qu'il est devenu croyant, mais qu'il n'est pas disciple du Seigneur. Et on se désole. J'espère qu'avant de l'accuser, on se remet en question. Enfin, que plutôt que l'accuser, on se remet en question. Qu'est-ce qu'on lui a prêché? Est-ce qu'il a entendu le kérigme, c'est-à-dire le contenu modèle de la prédication des 12, acte 10, ce que Pierre a prêché. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut que les gens entendent? Relisez la petite dizaine de versets qui résume ce que Pierre a prêché chez Corneille dans Acte 10. Et le kérigme inclut de parler du jugement. Ça ne veut pas dire qu'on commence l'évangélisation en prêchant le jugement, mais dans l'évangélisation, il est prononcé que Dieu a établi Jésus juge des vivants et des morts. Et Pierre va plus loin, il dit, il nous a commandé d'attester cela au peuple. Jésus a commandé de le dire. Ben oui, puisque Dieu a donné son Fils pour que celui qui croit ne périsse pas. Donc, si quelqu'un a été évangélisé et qu'on lui a à peine mentionné le péché, à peine mentionné la perdition, perdition parce que jugement de Dieu et condamnation, comme Pierre, tu l'as très bien dit dès le début et aussi au moment de la scène, tu es venu pour nous sauver de la condamnation. Si quelqu'un a à peine entendu ça, eh bien, comment voulez-vous qu'il soit disciple? Comment voulez-vous qu'il suive? Et à la première parole de Jésus qui va le prendre à rebrousse-poil, il va lui arriver ce qu'on lit dans Jean chapitre 6. Maître, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Et à partir de ce jour, ils cessèrent de le suivre. Il n'y a pas une église sur la planète qui ne voit pas ça arriver. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser à toute vitesse. En fait, il s'agit de culpabiliser pas du tout. Il y a une différence entre culpabiliser et se reconnaître coupable quand Jésus me dit coupable de quelque chose. Me reconnaître coupable quand le mot est dans sa bouche, ce n'est pas culpabiliser. C'est juste... me pencher vers le repentir et la foi au pardon. Vers le repentir et le pardon. Donc, non pas culpabiliser, mais écouter deux fois plus le maître. Qu'il soit beaucoup maître. Qu'il ne soit pas peu maître. Donc, disciple de Jésus, pas des hommes. Donc, vous le savez que Jésus a dit, entre autres dans Matthieu 23, mais dans d'autres évangiles aussi, « N'appelez personne sur la terre votre Père. » ni votre maître. Dans Matthieu 23, c'est « Ne soyez pas appelés rabbi par les hommes, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Et donc, si l'un ou l'autre de mes nouveaux frères et sœurs n'est pas disciple, eh bien, Paul il dit « Moi, je suis le premier à en pleurer et à en souffrir. Parce que nous sommes frères. Vous êtes tous frères. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Parce que, souvenons-nous, baptiser, c'est plonger dans la mort de Christ. Enseveli avec Christ dans sa mort. Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Voilà. Alors, bien, je vais finir en citant encore une phrase de Jésus, Jean 13, 13, facile à se rappeler. Et puis cet après-midi, donc Et cet après-midi, je propose de peut-être entrer un peu plus dans la pratique aussi de ce que fait le disciple, ou plutôt de ce que le maître fait, et comme le maître se fait suivre. Vous voyez ? C'est ça qui est admirable. C'est ça qui est admirable. C'est pas, il n'est pas écrit, il nettoyait les filets sur la plage, et voyant Jésus, il se dit, il faudrait le suivre. Il est écrit que Jésus passe et leur dit, suivez-moi. C'est lui qui se fait suivre. Et Paul le résume très bien en disant, dans le Philippiens 3, quand il dit tout ce qui était un gain pour moi, y compris mes gains d'identité religieuse, etc., eh bien, c'est rien. Et il dit, je poursuis, mon but est de le saisir lui, vu que j'ai été saisi par lui. Vu que moi aussi, j'ai été saisi par lui. Et donc, si vous voulez, tant que je suis un chrétien, qui d'une certaine manière est encore maître de soi, de sa propre vie, c'est pas pareil que cet impact qui est indélébile et en fait qui est croissant aussi. Toute notre âme est modelée par ça et elle se vivifie avec ça. Il m'a saisi. Alors ça peut faire, c'est peut-être il y a des dizaines d'années, mais nul ne les ravira de la main de mon Père, c'est-à-dire il continue à se saisir de moi. Amen. Alors, Jean 13, 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Étends ta main, Seigneur, étends ta droite puissante, âme forte et à bras étendus. Tu as sauvé, tu as racheté ton peuple. Et nous prions souvent, étends ta main puissante pour nous délivrer de telle ou telle chose. Et nous voulons prier aussi, étends ta main puissante pour me saisir encore. Pour continuer à me saisir. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, beaucoup. Tout le monde applaudit sur les petits écrans. Merci, Seigneur. Voilà, bah écoutez, je vous invite à nous retrouver à partir de 14h. On va s'arrêter là. On va bientôt ouvrir les micros pour que chacun puisse se dire à tout à l'heure ou au revoir. Si vous pouvez pas être parmi nous cet après-midi, c'est pas grave. Soyez bénis. Rappelez-vous qu'on a les groupes de vie online tout au long de la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et puis, sinon, rendez-vous à 14h pour la suite. Ça va être excellent. J'en suis certain. Merci beaucoup.